c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé. Avec Mazagran Immobilier, la Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et oui, pas de répit pour ce 1er mai, nous allons vous offrir une émission 100% inédite avec deux très beaux coups de cœur ciné. Le premier, ça s'appelle Ma langue au chat, le film est sorti mercredi dernier au cinéma. Sa réalisatrice Cécile Tellerman va venir nous rejoindre dans une poignée de secondes accompagnée de Mélanie Bernier et Marie-Josée Croze. Enfin, l'émission parlera du film Pour l'honneur qui sortira mercredi au cinéma. Son réalisateur Philippe Guillard sera là avec nous accompagné de Mathieu Madénian et de Olivia Bonamy. Un rendez-vous à ne pas manquer. Okay. Nos coups de cœur télé pour le colosse Pied d'argile qui sera diffusé jeudi sur TF1. Le producteur Sidney Gallonde sera là, accompagné de Sébastien Bouel, celui qui a inspiré l'histoire du film et qui est auteur du livre éponyme Le colosse Pied d'argile. On parlera également du grand retour des petits meurtres d'Agatha Christie. À cette occasion, Arthur Dupont, alias Beretta, sera là avec Chloé Chaudeuil qui sera avec nous également. Alors ça commence maintenant dans Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Ma langue au chat et on a beaucoup de chance puisqu'on reçoit aujourd'hui la réalisatrice qui est avec nous, Cécile Tellerman. Bonjour Cécile.
Mais bonjour.
Merci d'être avec nous. On a le grand plaisir d'avoir Mélanie Bernier qui est avec nous aujourd'hui également et qui joue le rôle de Magali.
Bonjour tout le monde.
Mais Marie-Josée Croze, c'est Ariane.
C'est vrai, tout à fait.
Pour planter un peu le décor, Ariane est la belle-sœur de l'héroïne qui est jouée par Zabou Breitman, qui joue le rôle de Laure, et Magali est son employée, justement, à Laure, sa fidèle employée. Mais on va d'abord, avec Cécile, planter un peu le décor de cette histoire. Ma langue au chat, c'est quoi et comment est né le projet pour commencer, Cécile?
C'est un ami qui est devenu co-scénariste du film, qui est venu passer quelques jours de vacances dans notre maison du Sud-Ouest et qui a trouvé que je parlais très souvent et comme une débile à mon chat. Et pendant les vacances, il n'a rien dit. Et en rentrant, il a dit, dis donc, j'ai une bonne idée de film. C'est peut-être un bon pitch, mais en t'observant pendant ces vacances, je me suis posé la question suivante. Que se passerait-il si jamais un de tes copains que t'invite dans ta baraque faisait disparaître le chat? Et je lui dis, écoute, c'est une très bonne idée, c'est rigolo, c'est un pitch. Après, il faut une thématique. Et là, j'avais envie de parler des gens de 50 ans et particulièrement des femmes de 50 ans quand leurs hormones commencent à décroître et que elles traversent une période qu'on nomme pudiquement la ménopause du bout des lèvres parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ensuite, on voulait qu'il y ait du suspense, qu'on se dise à chaque étape qu'est devenu ce chat et qu'est-ce que va découvrir Laure, cette protagoniste.
Alors Laure, c'est un personnage un peu au bout du rouleau qui s'apprête à déposer le bilan parce qu'elle refuse le rachat de sa société. Elle résonne en beaucoup d'entre nous puisque c'est un personnage qu'on a un peu marre de tout le monde, qui est un peu sans filtre au final, mais qui voue un amour sans fin à son chat puisqu'elle a l'impression qu'il n'y a qu'à lui qu'elle peut tout dire. Et donc c'est lors d'un week-end entre amis que ce chat disparaît. Mais que lui est-il arrivé?
Oui, c'est un ras-le-bol générationnel. C'est-à-dire que la société, elle a énormément changé en assez peu de temps. Et donc, j'ai l'impression que les gens de 50 ans se sont trouvés très vite déclassés technologiquement. C'est-à-dire qu'en 10 ans, là où ils se pensaient super branchés, modernes et cool, ils sont devenus un peu ringards. C'est-à-dire que maintenant, c'est les mômes qui expliquent à leurs parents comment utiliser l'ordi et les réseaux sociaux, alors que cet ordre des choses ne s'est jamais présenté comme ça. C'était les parents de 50 ans qui expliquent, voilà, qui sont en pleine fleur de l'âge, et puis là, tout d'un coup, on demande à son petit dernier de 12 ans, dis donc, tu veux pas m'installer WhatsApp parce que je comprends rien, en s'énervant, et ça nous rend un peu déclassés.
Alors, on va découvrir que le personnage justement de Magali, qui est l'employé modèle de Laure, elle doit lui avouer, Laure, qu'elle veut se séparer d'elle puisqu'elle refuse ce rachat. On va pas dire quel secret, mais Magali aussi recèle un secret que vous découvrirez en allant voir le film, bien évidemment. Mais comment tu la définirais, toi, déjà, Mélanie, Magali ?
Mais en fait, c'est un personnage, c'est intéressant comment tu racontes, Cécile, sur les 50 nettes. Moi, justement, je suis un personnage un peu plus jeune. Donc, je vais peut-être être plus, justement, celle qui peut révéler aussi aux autres qui sont plus dans le coup. Parce qu'en fait, ces personnages, ils ont un peu cette sensation. Enfin, tous, ils sont un peu là-dedans. Moi, mon personnage, elle, ce qui est différent, c'est qu'elle ne fait pas partie de la même classe sociale que les autres. Donc, elle a peut-être une forme de complexe, de timidité par rapport à ça, où elle se sent pas toujours à sa place. Et c'est difficile de toute manière dans la vie de prendre sa place et de se sentir à sa place. Et je crois que le chemin de Magali, il est celui-ci. Et elle a un conflit de loyauté très fort. Mais comme ils vont tous un petit peu avoir, c'est vraiment un film sur la trahison, sur ce son... Ou justement, est-ce qu'on met son degré de loyauté, etc. Et le mien, voilà, cette espèce de conflit de loyauté, sachant que c'est une jeune femme qui élève seule son enfant, qui doit travailler, qui gagne pas beaucoup de sous et qui a pas vraiment le choix. Elle a encore tout à construire professionnellement. Et donc, du coup, elle a pas le choix. Faut qu'elle bosse, faut qu'elle élève cet enfant. Et elle est assez différente de ce qu'elle pourrait dégager aussi physiquement. Et ça me plaisait beaucoup.
Alors, on va parler un peu du personnage d'Ariane aussi, Marie-Josée Croze, qui passe quasiment toute cette saison avec nous, deux fois en deux mois, avec Prométhée il y a quelques semaines. C'est une belle moyenne pour 2023, en tout cas. Ariane, c'est un peu la plus lunaire, un peu la plus perchée de tous, finalement.
Oui, parce que c'est aussi une pièce rapportée, parce que elle est pas de cette famille, c'est la belle-sœur, quoi. Donc, elle serait pas mariée avec ce type qui est joué par Mathias Melkuj, qui est le frère de Zabou Breitman dans l'histoire de Laure. Elle serait pas avec ces gens. Donc, on sait pas si elle les aime ou si elle les aime pas, mais elle est là, elle est obligée d'être là, elle est là. Et elle recèle, elle a en elle une problématique, un truc très personnel, qu'elle n'arrive pas à partager, ni avec son mari, ni avec personne. Et elle est bouleversée parce que c'est très grave ce qu'elle porte en elle. C'est quelqu'un qui est perdu et qui se cherche. Et elle va se trouver au fil du film.
Qui va surprendre. C'est un des personnages qui surprend le plus. Vous verrez dans le film pourquoi, évidemment. Elle surprend à beaucoup de points de vue. Et elle recèle, elle aussi, un secret d'ailleurs qu'il faudra attendre jusqu'à la fin du film. Il faudra bien aller voir le film jusqu'à la fin pour découvrir quel est le secret d'Ariane. Et ça, c'est ce que vous découvrirez en allant voir justement Ma langue au chat en ce moment au cinéma. On écoute la bande-annonce et on revient juste après avec vous trois. À tout de suite.
Si tout le monde pouvait être comme toi. Oh là là.
Tu lui parles beaucoup ces temps-ci, non? T'es au courant qu'il comprend rien de ce que tu lui dis?
Toi non plus, tu comprends rien de ce que je te dis.
Chat d'amour, allez, viens manger.
Tu l'as vu le chat ce matin?
Non, non.
Qu'est-ce qui s'est levé premier ce matin?
Moi.
De retour dans Chut, on écoute la télé. On est très heureux de parler de ce film, Ma langue au chat, que j'ai beaucoup aimé, moi, et que je vous invite à aller découvrir au cinéma. Le cinéma français a besoin de vous, justement, en ce moment. Et c'est pas Cécile de Herman qui va me dire le contraire. Alors, il y a une joyeuse troupe de comédiens dans ce film. Camille Lelouch, qui est incroyable. Pascal Elbé, Pascal Demelon, Zabou Breitman, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze. Il y a un panel de comédiens, un casting de fou. Comment on fait pour maîtriser tout ce petit monde quand il y a autant de monde devant la caméra, Cécile?
Mais ils étaient très maîtrisés eux-mêmes. Ils étaient à la fois excessivement dans la confiance, dans une confiance réciproque, dans une loyauté réciproque. Il y avait un côté très égalitaire, un côté troupe de théâtre. C'est vrai que c'était pendant le confinement, donc on avait quelque chose de soudé. On se connaissait tous plus ou moins à une poignée de mains, comme on dit. Moi, j'avais déjà travaillé avec Pascal, Samuel, Le Bihan, Mathias Mécuse. Et Zabou avait travaillé avec Marie-Jo, avec Mélanie,
avec Pascal.
Donc, en fait, tout le monde se connaissait de près ou de loin. Et donc, ça a très vite matché. Donc voilà, j'ai envie de travailler calmement, dans la joie, dans la bonne humeur, tout en étant sérieuse. C'est assez rare. Et c'est parce que c'est assez rare que ça doit être remarqué.
Alors, la question que tout le monde va se poser, on va révéler un petit secret de tournage. Combien y a de chats qui joue le rôle? Il y en a qu'un seul ou pas? Oui, il y en a plusieurs.
Il y en a qu'un seul et il n'a pas tourné beaucoup. Nous ne l'avons pas maltraité, c'est lui qui nous a maltraité. Dès qu'il arrivait, c'était branle-bas combat. On avait des consignes très strictes que je donnais. On n'avait pas le droit de parler. Pour faire moteur et action, on faisait comme ça. On marchait tous sur la pointe des pieds.
C'était lui la diva, en fait.
C'était lui la diva. C'était un chat pas très sociable. Il était bien mignon, certainement, chez lui, à la maison, couché dans le canapé. Mais devant des acteurs et des techniciens, manifestement, il se demandait ce qu'il faisait là. À tel point que le temps qu'on dise action tout bas, il avait déjà traversé le champ, il s'était barré. On allait le récupérer.
C'est quand la réalité rejoint la fiction, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Après, c'est des très bons souvenirs parce que c'était quand même très drôle. Voilà, donc le chat a dû tourner, je ne sais pas, moi, 2 heures sur 6 semaines par bout d'un quart d'heure. Et on veillait à ce qu'après et avant, il y ait des croquettes, du pâté.
Finalement, c'est le mieux payé, hein, en termes de taux horaire. Ouais,
franchement, je pense qu'au taux horaire, c'est lui qui a été le mieux payé pour en faire le moins et le plus mal.
Mélanie, s'il devait y avoir une scène qui ressort, une scène que tu as préférée, ça serait laquelle?
Oh, je ne sais pas si j'ai vraiment une scène préférée, parce que justement, ce que j'aimais bien, c'est avoir toutes ces scènes de groupe où on est ensemble et qui sont très gaies parce qu'on s'entendait quand même tous vachement bien, donc il y a un côté bande de copains, allez, on va jouer ensemble. Et puis j'aimais bien aussi avoir des scènes d'intimité. J'ai pas mal de scènes, moi, toute seule avec Samuel par exemple, ou même avec Zabou. Et j'aimais bien aussi quand le plateau finalement se vidait et que tout d'un coup il y avait une autre énergie, voilà, quelque chose de plus intime. C'est ça que j'appréciais. Et après, c'est vrai que j'ai une grande crise de fou rire dans la scène où Zabou, elle attaque Pascal par terre. C'était très drôle. C'est un peu pathétique. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Voilà.
Ça m'étonne pas. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à vous regarder dans cette histoire. Marie-Josée, est-ce qu'il y a des moments aussi particuliers?
C'était vraiment incroyable. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Le jour 2, je crois, où j'ai entendu tout le monde. Il y avait plusieurs comédiens et on était 6, je crois, dans la scène. Ouais. Et moi, j'étais au balcon, j'allais à un cours de yoga, j'avais une phrase à dire, mais donc j'étais pas stressée par une scène à jouer. Et là, j'ai tellement apprécié de les entendre, de Melon, Samuel, Pascal, Zabou, Mélanie, tout le monde. Il y avait des sons, leur voix, je les trouvais tellement belles. Je trouvais que c'était, je les ai aimés, quoi. Je me souviens de m'être dit, ah, c'est des grands acteurs, j'ai de la chance d'être avec eux, de pouvoir les entendre dire un texte comme ça, quoi. Et après, alors, j'ai eu plein de scènes. Je me souviens d'une scène avec Samuel et Pascal où j'arrive de chez le coiffeur. Ça, c'était une scène qui était extrêmement drôle parce que je me souviens que j'avais fait un truc fou. Et les deux, Pascal et Samuel, ils étaient très clients de cette folie, quoi. Et ils ont dit, ah, on a vu Ariane, ça y est, c'est la folie d'Ariane, ça y est, on l'a vu. Et du coup, ça m'a donné la suite, quoi. Après, j'ai dit, ah oui, d'accord, je peux aller. Et Cécile était super contente. Et donc ça, c'était très intéressant, quoi. J'ai beaucoup aimé.
Bon, Ma Langue au Chat, en tout cas, c'est au cinéma. Vous verrez que la voisine a un rôle très important aussi dans le film.
Ah. Müller, formidable actrice. Ouais. Elle, par exemple, on parle du plaisir de regarder les autres jouer, mais dès qu'il y avait Florence, elle avait 2 ou 3 jours de tournage, mais au plan de travail, quand je voyais qu'elle allait venir, je disais, ah, demain, on va se régaler. Et elle, ouais, quand elle jouait, pareil, c'est une grande actrice de théâtre, il y avait quelque chose où on était vraiment très, très client, toute la scène de votre révélation, enfin, vraiment, c'est bon de savoir, de pouvoir aimer regarder les autres jouer et travailler.
On a grand plaisir à vous retrouver. Malangocha, c'est donc au cinéma. On termine juste avec vos projets. Marie-Josée, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison de Prométhée? Est-ce qu'on peut peut-être s'espérer une suite? Ou ça m'a l'air quand même assez bouclé l'histoire?
Je pense que ça va pas. Il y aura pas de suite, je pense. Et sinon, moi, j'ai le film d'Ivan Attal avec Guillaume Canet et Maïwenn et Alma Jodorowsky. Qui sortira l'année prochaine, et un film brésilien aussi, et c'est tout.
Mélanie.
Eh bien moi, j'ai fait une série avec Didier Bourdon qui s'appelle Daron, réalisé par Franck Belloc.
C'est pour TF1 ça, il me semble.
Ouais, c'est un cabinet d'avocats, c'est assez chouette, c'est de l'intrigue et de la comédie. Enfin en tout cas, je me suis éclatée, on a déjà tourné les deux premiers épisodes et on tourne la suite à la rentrée. Et puis là, je pars en tournage aussi avec un Max Boublil que je retrouve, avec qui j'avais fait Les Gamins, et voilà, dans une comédie qui se passe en prison.
Cécile, la suite, est-ce que vous avez déjà un film sur les rangs? Comment ça se passe?
J'ai une idée de projet, voilà, mais je suis très lente. Il faut que je me dise, est-ce que je suis prête à consacrer 3 ans ou 4 ans de ma vie à ça?
Ça sera l'occasion de revenir aussi.
D'abord, voilà. Après la sortie du film, je prendrai des vacances et après je m'y remettrai.
Bon, bah pour l'instant, je vais donner ma langue au chat, moi, puisque ça sera au cinéma. Oui. Si vous avez envie, voilà, d'aller voir un film où vous allez être surpris jusqu'à la dernière minute, et c'est ça qu'on aime aussi quand on va au cinéma, c'est être surpris par des belles histoires comme celle-ci. Eh bien, allez voir ma langue au chat. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Un casting de fou en plus. À très vite. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous.
La télé, le Talk Show Radio.
Coup de cœur télé consacré au colosse pied d'argile qui va être diffusé sur TF1. Un rendez-vous à ne pas manquer, l'adaptation du livre de Sébastien Bouel aux éditions Michel Lafon. Sébastien qui va nous rejoindre d'ailleurs dans un instant, et pour l'instant c'est un des coproducteurs qu'on a avec nous, Ciné Galonde. Bonjour Ciné.
Bonjour, 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 et enchanté.
Merci d'être avec nous. Ciné, qu'est-ce qui t'a donné envie d'adapter ce livre?
D'être utile à travers ma fonction, mais également de pouvoir rendre hommage à Sébastien, qui est un colosse au pied d'argile dans la vie comme dans sa fonction.
Alors il faut dire que c'est un sujet grave, puisqu'on parle de viol. Pour être clair, Sébastien raconte son histoire. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre?
Non, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis un bout de temps. Son directeur général joue au rugby avec moi. Et moi, en tant que rugbyman, on s'est déjà croisés. Mais c'est surtout l'inverse, c'est Eric Cantona. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre pour interpréter le rôle de Sébastien? Eh bien, avec un sujet pareil, non, pas du tout.
Alors, l'histoire en quelques mots, pour commencer, même si c'est autobiographique, pour ceux qui n'auraient jamais lu le livre.
En quelques mots, c'est très simple, c'est que Sébastien a été violé de ses 12 à ses 16 ans par la personne la plus proche de sa famille, qu'il accompagnait tous les matins et qu'il récupérait tous les soirs de ses entraînements de rugby. Et donc, c'est de parler, en fait, de cette oppression et de cette peur qui, en général, est du côté des victimes. Et là, à travers ce téléfilm, comme Sébastien a libéré sa parole à une trentaine d'années, il avait pratiquement 40 ans, et bien, il a pris conscience qu'en libérant sa parole, il se libérait aussi de ce poids. Voilà le blocage que crée ce genre d'agression sexuelle, mais également celui de sa famille. Et ce non-dit, c'est quelque chose qui lui a fait développer un mécanisme d'autodestruction. Et depuis qu'il a parlé, il est redevenu l'homme exceptionnel qu'il a toujours été.
Et le but, évidemment, c'est de libérer la parole avec ce film. T'as vraiment la sensation d'avoir fait un film utile, là, du coup?
C'est exactement ça. C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir, comme je le disais, mixé mon métier, mais également la capacité qu'a la télé à rentrer dans l'ensemble des foyers. Et donc, aujourd'hui, peut-être, d'apporter cette réponse à certains enfants qui n'ont pas encore osé parler.
Oui, parce que le but, ciné, évidemment, de le faire pour la télévision, c'est que ça soit vu par le plus grand nombre, évidemment.
C'est exactement ça. Imaginez, si on avait juste 2 millions de personnes qui le regardaient, eh bien, on aurait déjà gagné, parce que ça veut dire 2 millions de victimes potentielles qu'on sauverait.
Et ça libère la parole. Voilà, encore une fois, on va parler de l'association du Colosse dans quelques instants avec Sébastien Bouel. On va écouter la bande-annonce. Ciné, merci. On se quitte juste, ciné, avec les quelques projets qui peut y avoir de ton côté au niveau production.
Au niveau production, c'est toujours des projets en général extrêmement visible. Moi, je suis un producteur indépendant, donc j'ai des projets toujours avec la Metro Goldwyn Mayer et Amazon. J'ai également des projets très ancrés en France, et notamment avec mon homme de cœur et mon chouchou Guillaume Misso.
Et ben voilà, on va écouter la bande-annonce. Le colosse pied d'argile débarque sur TF1 et on revient juste après avec Sébastien Bouel.
C'est pas grave pour le match, il y en aura le prochain.
Est-ce qu'elle dit toujours même crapette?
Tu viens t'apprendre à qui c'est t'attendre. En vrai, je m'en fous pour le match. C'est que... Je suis un peu pressée d'arriver, c'est tout.
Ouais, t'as surtout envie de pisser.
Oh, ouais, aussi, mais...
Oh, mais t'as rencard avec une fille. Ah, c'est beau, ça. C'est bien, gamin.
Et on va recevoir maintenant celui qui a inspiré, évidemment, ce film, Le Colosse aux pieds d'argile. On rappelle qu'il a été doublement primé au Festival de Luchon en février dernier. Sébastien Boël qui est avec nous. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
Alors, ce livre est paru en 2020 aux éditions Michel Lafon. C'est bien sûr quelque chose de totalement autobiographique. À quel moment on prend la décision de se livrer ?
Ben, en fait, moi, quand j'ai créé l'asso en 2013, je recevais beaucoup de témoignages qui me demandaient de faire un livre. Et j'ai jamais pris le temps parce que j'étais débordé par rapport à l'asso qui se développait. Et c'est la rencontre de Thierry Vildary, un journaliste d'investigation de Stade 2, qui a suivi l'asso et qui m'a suivi donc sur le terrain. Et on a très sympathisé pour devenir jusqu'à présent amis. Et je reviens sur ce sujet du livre. Et il me dit, ben, si tu veux, on fait un été, je viens chez toi et on l'écrit. Ben, je lui dis, allez, bingo. Et en 2 jours, il est venu, introspection totale, du coup. Et je lui ai tout raconté en détail, tout ce qui m'est arrivé. Donc, j'aurais pu le faire avant, mais je n'avais pas le temps. Et puis, c'était sûrement pas le moment non plus. Et donc, voilà comment est arrivée l'idée du livre.
Alors, le but, c'est que la parole se libère. Évidemment, un film comme ça, il est nécessaire. Après, de là à le transposer, après, sur le grand écran, enfin, sur le petit écran, plutôt, à la télévision, comment t'as réagi, Sébastien, à ce moment-là? Est-ce que t'as accepté tout de suite? Est-ce que t'as eu quelques petites réticences? Ou alors, t'as été plutôt enthousiaste à l'idée de voir ton histoire en téléfilm?
J'ai pas eu une seconde de doute et d'hésitation. J'ai dit oui de suite, parce que et j'étais même ravi que ce soit un téléfilm et pas un film pour le cinéma.
Pour que ce soit vu par le plus grand nombre.
Exactement. Et que on rentre avec ce sujet dans les foyers. Et c'est ce qui va être fait. Et bon, TF1 qui va, je pense, aussi essayer de faire une bonne audience. Donc, on a tous les voyants qui sont ouverts pour justement entrer dans un maximum de foyers. Pour libérer cette parole, on a déjà vu systématiquement quand je le présente, il y a la parole qui se libère. Il y a des hommes aussi qui prennent la parole. Ça leur donne du courage parce que malheureusement on est dans une société aujourd'hui qui clive un peu les victimes. Avec, on va parler des enfants victimes, des femmes victimes, mais les hommes victimes, on est souvent mis à la marge. Donc ça permet aussi de montrer que les hommes aussi on peut être victime malgré qu'on soit une colosse au pied d'argile.
Comment expliquer ça justement? Parce que quand on est un homme, on se dit qu'on n'a pas le droit de faillir finalement.
Ouais, mais on est dans la virilité. L'homme, il a l'image d'une personne virile. Et le fait d'être victime, c'est qu'on n'a pas réussi à se défendre quelque part. Et donc, on a une culpabilité qui est décuplée. Et aujourd'hui, j'ai lancé, pour aller plus loin dans la démarche, j'ai lancé un groupe de parole pour les hommes. Et quand je vois ces personnes de 65 ans, 60 ans, qui ont, se sont bousillés leur vie parce qu'ils étaient un homme victime, et qui n'arrivaient pas à parler, à verbaliser. Donc le fait que je sois un homme qui parle apaisément de mon passé, des viols que j'ai subis, mais leur donne beaucoup de courage. Ce film l'a déjà fait et va continuer de le faire, à libérer la parole aussi des hommes.
Sébastien, dans tes plus grands rêves, est-ce que tu imaginais que ça puisse être Eric Cantona qui puisse t'incarner? Est-ce que ça c'est quelque chose pour toi qui te dépasse, qui te dit jamais j'aurais pu rêver mieux quoi?
Bah c'est le Graal du coup, parce qu'il a lié tout, le sportif, le caractère, l'homme et
la carrure, tout, ouais.
Il y a tout qui colle et c'est ciné également encore une fois. Quand il me pose la question, qui c'est que tu verrais incarner ton rôle, j'hésitais entre lui et Vincent Moscato. Et je lui dis, mais Eric Cantona quand même, je pense qu'on a le même caractère. Et je pense que c'est un rôle qui va lui coller à la peau. Et en fait, le résultat est là. Donc quand Ciné m'appelle pour me dire, il a dit oui, bah, j'étais aux anges, puisque bon, puis voilà, c'est Cantona, le King. Et au-delà de ça, ça a été une rencontre exceptionnelle et extraordinaire. Parce qu'on était en binôme sur le tournage. Bon, je l'ai trimballé un peu à droite à gauche dans les Landes aussi, pour le faire découvrir notre région. Mais on était vraiment très proches pendant ce tournage. Et c'est une personne d'une humilité exceptionnel. Et il a voulu s'inspirer vraiment, il me posait beaucoup de questions pour affiner son rôle, pour affiner son approche, sa posture. Et c'est quelque chose qui transpire dans le film là du coup.
Alors le but évidemment c'est de faire connaître aussi l'association. Aujourd'hui concrètement comment on peut t'aider Sébastien à faire rayonner justement cette association, comment les gens peuvent aussi venir en aide à cette association, devenir bénévole, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi?
Alors le bénévolat, nous c'est compliqué parce que c'est un sujet qui est très délicat. et très chronophage. J'ai professionnalisé le combat justement parce que le bénévolat avait ses limites sur ce sujet. Parce qu'on va venir, on va intervenir, ou même si on met un stand, on va avoir un bénévole. S'il n'a pas été formé pour accueillir la parole de la victime, ben la victime peut être mal reçue. Et donc on a vraiment cadré notre objet de l'assaut et le modus operandi. Donc les bénévolats, malheureusement, on n'en prend pas, sauf sur des grosses actions. Aujourd'hui, ben, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc c'est partager, adhérer, partager le contenu que nous avons mis en place. Adhérer à l'assaut et elle fête ses 10 ans au mois de juin. On a lancé une levée de fonds, donc il ne faut pas hésiter aussi à faire un petit don pour nous aider à améliorer l'accompagnement des victimes, parce que l'accompagnement des victimes est gratuit chez Colosse. On a investi l'année dernière, je crois, près de 150 000 euros pour aider les victimes gratuitement. Il y a un objectif aussi d'ouvrir une maison d'accueil et de résilience par le sport dans les Landes pour accueillir les victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Et tout ça, ben, ça a un coût, donc n'hésitez pas à venir nous soutenir de cette manière-là et de partager nos contenus.
Pour retrouver l'association, il y a un site internet, j'imagine ?
Colosse.fr, il est tout beau, tout neuf, très altruiste, et vous trouvez toutes les informations que vous recherchez.
Merci beaucoup Sébastien. Le Colosse au pied d'argile s'est diffusé sur TF1. On va découvrir ce film inédit. Vous allez pouvoir évidemment découvrir l'histoire de Sébastien. Merci beaucoup.
Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé va s'intéresser au Petit Meurtre d'Agatha Christie, version années 70. Vendredi, vous allez pouvoir découvrir un nouvel épisode inédit sur France 2, Mortel Karma. On a la chance aujourd'hui de recevoir Chloé Chaudoy qui est avec nous. C'est la première fois. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Qui joue le rôle de Rose Belcourt et puis Max Beretta évidemment, qu'on a plaisir à retrouver. Arthur Dupont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors il y a à peu près 2 ans, je crois que cette nouvelle formule années 70 a vu le jour. Le succès et continue. Vraiment, c'est une recette aujourd'hui qui est un énorme succès, les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Est-ce que vous, quand il y a eu ce changement un peu d'époque et que vous êtes arrivé dans la série, vous aviez un peu quelques craintes ou pas? Que le public peut-être suive pas?
Oui, moi je... Alors pas qu'ils suivent pas, mais j'avais une crainte, c'est de me dire, ok, donc on arrive quand même après un énorme succès, parce que ça a duré très longtemps en tout, jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans que ça existe, les Petits Meurtres. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, qu'on tourne, donc il y a 10 ans avant nous, et avec un public, avec des gens qui apprécient la série, qui sont fans, et donc c'était plutôt la peur de pas être à la hauteur. Moi c'était ça. Et après venu l'appréhension de se dire ok, donc après 8 ans d'habitude des spectateurs, est-ce qu'ils vont accepter que ça change d'époque? Il y avait une petite crainte, mais ça a été vite balayé par les premiers résultats d'antenne, donc on était rassurés.
Alors quel est ce rôle de Rose?
Une belle découverte, ce personnage, parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer, beaucoup de plaisir.
Tous les épisodes sont différents, c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, toutes les histoires sont différentes, tous les épisodes sont différents. Moi je me souviens du premier épisode justement avec votre nouveau trio entre Beretta et Greco. Ouais. La première rencontre a été quand même un peu électrique. Hein.
Ouais, parce qu'après il fallait installer les...
C'est un peu misogyne Beretta quoi.
Oui, bah oui, c'est
un peu.
C'est un homme qui est bien de son temps et même avec Rose Belcourt, il y a un refus d'écouter avec intérêt, respect la voix d'une femme parce que il part du principe que finalement il n'a pas écouté la vie, le côté un peu comme ça professoral d'une femme. Bon, pour lui ça n'existe pas et il se bat contre ça. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toutes ces oppositions qui lient ces personnages et qui font que d'épisode en épisode, la relation peut évoluer avec comme ça ce tiraillement qui va être un peu plus dans l'acceptation après un espèce de retour de flamme. C'est jamais stable tout ça. C'est ça qui est intéressant.
C'était sans compter le grand caractère quand même de Greco, qui se laisse pas faire du tout. Alors, sur cet épisode Mortel Karma, on va avoir affaire à un patron d'un empire de luxe français qui va être assassiné. Seul problème, c'est qu'il était sur le point de déshériter sa fille. Alors du coup, bah, ça va être un peu la première qui va être suspectée dans l'histoire, Chloé.
Oui.
C'est bien résumé, hein, pour mettre les gens un peu juste dans le, hein, dans l'envie d'aller voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet épisode en tout cas?
Bah, en fait, moi dans cet épisode-là, sans dévoiler un peu le truc, mais la personnalité de Max Beretta change un peu, même beaucoup d'une certaine manière. Le défi et le plaisir, c'était de presque de rentrer dans des pompes différentes du même mec. mais avec un aspect de sa personnalité ou des aspects de sa personnalité qui sont un peu différents. Ouais, c'était le défi. Et puis du coup, le rapport avec Rose Belcourt change aussi. On parlait de ces points de friction comme ça entre les personnages. Là, ça évolue sur cet épisode-là. Et donc ça, c'était hyper plaisant. Ouais. Et puis sur cet épisode-là, il y a la part belle aussi au côté hippie avec le personnage aussi de Bob qui est joué par Nicolas Lombreras dans les autres épisodes. Et là, c'est un peu plus développé vraiment le côté hippie. Et ça, c'était chouette aussi.
Il y a des costumes qui sont merveilleux dans les petits meurtres d'Agatha Christie. Moi, à chaque fois, j'adore. Chloé, toi, qu'est-ce qu'il va en retirer de cet épisode pour toi ?
Justement, ce que disait Arthur sur son personnage qui change un peu de personnalité. On dit pas pourquoi. Rose, du coup, à l'inverse, change aussi. Et j'ai l'impression que Max devient un peu Rose et Rose devient un peu Max. Et voilà. C'est ça qui était assez chouette à jouer.
Il y a eu une scène assez drôle, quelque chose qui ressort depuis votre arrivée à la tête de la série, tous les deux.
Il y a une scène où on est en planque dans une voiture. Cette scène, quand on l'a tournée, on a eu beaucoup de fou rire parce qu'elle était vraiment très très bien écrite et elle était très... on était en attente et Max, à un moment donné, fait une blague et Rose ne réagit pas du tout à la blague, trouve ça complètement absurde et le remet à sa place. Et ça, c'était quelque chose qu'on a pris beaucoup de plaisir à jouer.
Il y avait une autre séquence aussi dans un autre épisode où Rose Belcourt doit apprendre à être dans la séduction physiquement comme ça. Et puis moi, je lui donne un peu des cours. Je dis, écoutez, il faut être comme ça, comme si. Et puis il faut être vraiment, il faut faire plaisir à l'homme, lui montrer, enfin vraiment un truc hyper, hyper misogyne, hyper relou, misogyne à mort. Et elle qui, elle essaye. Et moi, je m'attends pas du tout à ce qu'elle vraiment joue le jeu hyper bien. Et là, elle se lâche et elle devient envoûtante. Il y a ce grand moment de tension, un peu tension sexuelle. Il y a quelque chose de très fort qui est complètement lidé comme ça par Rose. Et lui se laisse avoir à son propre jeu et elle casse parce que elle joue la comédie et donc elle est hyper surprenante là-dedans, Rose et donc Chloé, mais c'était très drôle parce que d'un coup c'était très difficile de garder son sérieux parce qu'elle était comme ça d'un coup hyper envoûtante avec des choses très soufflées comme ça et j'étais mort de rire, c'était très compliqué.
En tout cas, on passe de bons moments, c'est de la comédie policière comme on les aime, en tout cas. Vendredi, nouvel épisode, ça s'appelle Mortel Karma. On embrasse Émilie Gawakan, évidemment, qu'on adore et qui clôt ce trio infernal. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un petit extrait. Mortel Karma, c'est vendredi à 21h10, juste après Un Si Grand Soleil sur France 2. Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Vous êtes magnifique.
Je m'appelle Mireille, j'ai 38 ans, je mesure 1m62 pour 55 kilos. Je suis d'un naturel joyeux.
Stop, 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 ça va pas. Il est où le naturel joyeux, là ? Nous faut des sourires, Mireille, de la séduction. Vous cherchez vraiment un mari, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors imaginez-le. Il est beau, il est grand, il est drôle, brillant. Il vous aime, il veut vous épouser, vous le voyez ?
Écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre spécial pour l'honneur démarre maintenant dans Chut, on écoute la télé. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça sort mercredi au cinéma. On a la chance d'avoir le réalisateur qui est avec nous, Philippe Guillard, qui est un fidèle de l'émission, était là pour J'adore ce que vous faites l'année dernière. J'avais vraiment adoré, c'est le cas de le dire sans faire de jeu de mots. Bonjour Philippe et merci d'être là.
Ben bonjour, merci de nous accueillir.
Et un habitué de la région, je sais qu'il adore la Charente-Maritime, notamment en Nouvelle-Aquitaine et La Rochelle, dont il vient faire régulièrement état tous les ans au Festival de la Fiction Télé. Pour notre plus grand plaisir, Mathieu Madénian est là. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous n'allez pas me dire le contraire, les garçons.
Tout à fait d'accord.
Voilà. C'est une comédienne qu'on voit pas assez souvent, mais moi, ça me fait toujours des petits picotements quand je la vois parce que ça me rappelle mes débuts à la radio. C'était à 16 ans. Et je me rappelle, c'était pour Il, un film qui s'appelait Il. Et on s'était revu pour une folle envie. C'est Olivia Bonamy, une comédienne qu'on voit pas assez souvent, je trouve, au cinéma. Donc merci Philippe, en tout cas, de nous l'avoir amené. Bonjour Olivia.
Bonjour, hein, je suis ravie de vous retrouver.
Et ben, nous aussi, en tout cas. Philippe, le rugby, on sait que pour toi, c'est un amour inconditionnel, le rugby. Et là, c'est une ode au rugby, mais pas que ce film. Ça raconte tellement de choses sur la solidarité, sur les valeurs que peuvent représenter notamment ce sport.
Oui, c'est une histoire de partage, d'inclusion. Et quel sport mieux que le rugby peut servir de théâtre d'une inclusion de gens qui arrivent de très loin, qui ont souffert et qui sont pas les bienvenus au départ et qui, à l'arrivée, grâce au rugby, le lien va se faire et l'intégration va avoir lieu. Et c'est un film humain, quoi. Voilà, c'est des valeurs humaines.
Alors on va parler du casting qui est assez incroyable, mais on va planter un peu le décor pour commencer. C'est l'histoire d'une guerre de clochers sous fond de rugby entre deux villages dont Tourtour. Et là, évidemment, ce qui va se passer à travers cette guerre de clochers, c'est l'arrivée de demandeurs d'asile qui va créer un peu la zizanie dans ce village. Et puis un casting incroyable. Alors évidemment, moi, j'ai adoré Dédé, parce que Dédé, c'est l'entraîneur derrière l'entraîneur, en fait, hein, qui est joué par Olivier Marchal. Et Dédé, incarné par Mathieu Madédian, franchement, la cascade, tu la portes à merveille, Mathieu.
Ouais, faut féliciter Philippe qui a pensé à moi, hein, parce que moi, je pensais pas à moi à la base. Mais oui, c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur. J'ai eu la chance que Philippe me fasse confiance, m'appelle et me dise vas-y, on va s'amuser avec ce perso. Et on l'a créé à deux et on l'a écrit à deux. Et si ce perso marche, c'est parce que c'est un perso qui est en duo. Seul, il ne fonctionnait pas. C'est parce qu'il y a Olivier Marchal qui est là et que le duo de comédie fonctionne à merveille. Parce que c'est compliqué la comédie, du moins pour que le rire et le sourire arrivent. Mais ce mec-là, c'est pas que. Il sert l'histoire aussi. Et ça prouve que dans tous les villages, ben, on a chacun un Dédé et que ces mecs-là, qu'on peut prendre de haut en se disant ah, voilà, regarde, c'est un mec qui ne vit que par son village, que par son clocher, que par son équipe de rugby, ben, tu remarqueras que ce personnage dans ce film-là, il ne se pose pas la question de savoir la couleur des gens, leur religion, il pense que rugby. Donc voilà.
Alors, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, y compris au clocher d'à côté. Et alors, Tom Villa, il est incroyable. Moi, j'adore ce garçon. Et là, il offre la palette d'un garçon antipathique dans toute sa splendeur, justement, qui va essayer que ces demandeurs d'asile ne soient pas accueillis dans le village d'à côté, parce que ça y pose des problèmes, évidemment. Mais c'était sans compter l'acharnement d'Annabella, justement, incarnée par Olivia, qui va trouver une solution coûte que coûte pour pouvoir accueillir tous ces demandeurs d'asile dans son hôtel, puisqu'elle tient l'hôtel avec Olivier Marchal, qui lui est l'entraîneur voilà, du rugby.
Annabella, c'est une femme qui est droite dans ses bottes, qui n'a pas peur de monter au créneau quand il faut monter au créneau. Et c'est surtout quelqu'un d'extrêmement généreux et d'altruiste. Et voilà, elle incarne vraiment une femme qui aime la justice et qui aime être juste. Et donc elle va comme une évidence quand tout d'un coup les portes se ferment et que ces demandeurs d'asile arrivent et que l'endroit qui devait les accueillir ne peut plus les accueillir. Elle ouvre ses portes et elle réfléchit pas à deux fois, en fait.
Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages mais hyper attachants, le rôle de Jawad, mais voilà, il y en a plein évidemment dans ces comédiens. Comment t'as fait pour trouver justement ces pépites, Philippe?
Ben, je dois ça toujours à ma directrice de casting qui est une pépite, parce que pour Papy Sitter, elle m'avait trouvé la petite Camille, et puis etc etc. C'est-à-dire que moi j'adore cette fille avec laquelle je travaille, parce qu'elle sait, elle me connaît par cœur. Et elle sait exactement ce qui peut correspondre au rôle. Donc finalement, on fait très peu de, on fait du casting, hein, mais on a très peu le choix, parce qu'elle tape directement très vite sur ce que j'aime. J'avoue que j'ai eu 2-3 castings où il y a des très bons comédiens d'origine africaine ou maghrébine, mais qui sont plus dans le wesh, quoi. C'est-à-dire que c'est bon pour Les Misérables, c'est très bon pour les films comme Bac Nord ou tous ces films. Mais moi, j'avais besoin d'authenticité, donc j'avais besoin de gens qui n'étaient pas forcément connus et qui n'avaient pas forcément l'accent de banlieue, quoi. Donc du coup, on a travaillé, on est tombé sur ceux dont tu parles et qu'apparemment ça fait la blague, ça fait l'affaire, voilà.
Mais le casting est incroyable, Philippe Ducasne. Alors Solène Hébert, qui est génial, voilà, Solène, voilà, on l'adore tous. Les fans de Demain nous appartient, évidemment, on va être ravis de la retrouver dans un autre rôle que celui de Victoire Lazari. Et là, on va la retrouver dans le rôle d'Emily, une rugbyman. Voilà. Rugby woman, on dit. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que justement, remets les choses en contexte. On dit comment?
Rugby woman. C'est devenu très important, le rugby féminin. Aujourd'hui, je crois que ça, je sais pas, ils ont 10 fois plus ou 20 fois plus de joueuses de rugby. Et ça fait depuis 10 ans. Ce qui est génial, c'est que les filles, elles jouent avec les garçons jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Et pour être allées à quelques entraînements de temps en temps, elles ont un caractère de dingue, j'adore. Et donc du coup, pour moi c'était évident, et pour l'auteur avec qui on a travaillé, Eric Fournois, qui est mon pote, il fallait qu'il y ait une joueuse de rugby. Alors, pour une autre raison aussi, c'est que l'histoire d'amour qu'il y a là, évidemment, il fallait absolument que le grand africain costaud, professeur d'histoire géo, joue au rugby, mais il a pas envie. Donc, il va le faire par amour. Donc, il y a ce duo qui, enfin, cette histoire, cette petite histoire de love qui se met en place et qui finalement va servir à ce que De Gaulle, enfin, le demandeur d'asile africain, va se mettre au rugby. Pour la grande joie de Solène, donc d'Émilie, qui va voir, voilà, qui va l'entraîner en plus.
On va écouter la bande-annonce de Pour l'honneur, ça sort mercredi au cinéma. On va revenir après, évidemment, on va parler de Dédé, d'Annabella encore également. On va parler de Mémac aussi, qui est quand même un personnage à part entière, parce que ça a dû être pour les habitants de ce village un événement de voir ce tournage arriver. Mais ça, c'est juste après la bande-annonce. On écoute Pour l'honneur, c'est mercredi au cinéma.
Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de clochers.
Ok, ça va, j'ai compris.
Il a sorti le maillot du grand-père. Sent pas bon, les gars.
Et là, Julie, stop ! On met une branlée à ces gros cons de troupeau. Dans trois mois, au match retour.
Alors, les trompettes, on est venu prendre une branlée ?
Allez, de retour pour notre spécial Pour l'honneur. En ce 1er mai, il n'y a pas de repos pour les braves. On est là, on est au travail, hein, les amis. Et merci d'être là, en tout cas. Et de fêter cette fête du travail avec nous. Parce que ben, quand on est de repos, justement, rien de tel que d'aller sur un bon film. Et mercredi, vous allez pouvoir aller vous faire Pour l'honneur. Et ça, c'est un chouette film qu'on a découvert, nous, il y a quelques jours en avant-première. Et je vous le conseille vivement. Philippe Guillard, Mathieu Madénian et Olivia Bonamy sont avec nous. Olivia, on va parler un petit peu de ce qui t'a donné envie, en tout cas, d'endosser ce premier rôle féminin de ce film de Philippe Guillard, d'Annabella. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans ce personnage ?
Oh bah c'est une évidence. C'est quand même assez formidable de pouvoir camper comme ça des personnages aussi aussi généreux, aussi jolis, quoi. Elle est solaire, Annabella. Et donc voilà, elle vit pour les autres. Elle fait du collectif une affaire de famille. C'est tout ce que j'aime, quoi. Moi, je suis tombée tout de suite amoureuse de ce personnage quand je l'ai lu. Et puis, je salue la plume de Philippe, parce que Philippe, il met quand même très à l'honneur les femmes dans ce film. Il y a des très, très, très jolis personnages féminins. Et voilà, je trouve qu'on fait un beau collectif féminin qui vient faire un contrepoids comme ça à cette masculinité amenée par le rugby. Et je trouve qu'il y a une très belle complémentarité qui crée une osmose qui est vraiment chouette pour le film, je trouve.
À l'écriture, en tout cas, ce couple, il est hyper complémentaire. Ce couple incarné par Olivier Marchal, justement, et Olivia, bonne amie Philippe.
Je voudrais juste aussi citer Eric Fournols, qui a aussi une plume très féministe. Et du coup, on a quand même bien travaillé tous les deux pour que les femmes soient à l'honneur dans ce film-là. Quant au couple, c'est évident que c'est... Je pense que Marco Bianconi, dans ce village, quand il a épousé Annabella, il a gagné l'auto. Tout simplement. Il a gagné le gros lot l'auto. C'est-à-dire que s'il y en avait une à épouser dans ce village, c'était Annabella. Donc forcément, avec un caractère comme là, comme elle est belle humainement, ça en fait un couple très authentique. Ouais.
Cette rencontre avec Olivier Marchal, Olivia ?
Oh bah, en fait, c'est pas une rencontre, parce que moi je le connaissais de longue date, parce qu'on avait fait MR73 ensemble, et quand on s'est revu pour ce film et que j'ai été sélectionnée par Philippe, c'était un plaisir de jouer avec lui, parce que j'avais jamais joué avec lui, et c'est quand même un immense.
J'avais été dirigée par lui dans MR73.
Non, j'avais été dirigée par lui, et de jouer avec lui, c'était génial, parce que c'est quand même un immense acteur, et je trouve, voilà, ils font un couple très effectivement très complémentaires, et voilà, c'est deux forts caractères sur des points différents, mais autant Annabella ne joue pas au rugby, mais elle est complètement les yeux pleins d'amour pour ce sport et pour cet entraîneur qui est son mari et qui essaie de mener cette équipe. C'était vraiment du bonheur de jouer avec Olivier sous l'œil de Philippe.
Alors lui, il a un double couple en plus, hein, avec Dédé. Ah bah oui. On va le voir, parce que c'est sur le terrain, c'est voilà.
c'est notre fils finalement, Dédé.
C'est un peu ça. Et juste avant, je voudrais revenir sur une scène. On ne donne surtout pas la chute, parce que ce serait dommage pour les spectateurs, donc on va pas donner la chute. Mais à un moment donné, où Olivier Marchal est à côté de toi, il s'adresse à tout le monde et il pique une grosse colère. Mais vraiment une très très grosse colère. Est-ce qu'à ce moment-là, il a médusé un peu tout le monde ou pas ?
Ah, moi j'étais sidérée. sidérée parce que je savais pas du tout comment il allait la jouer.
Ah, mais il a les yeux qui sortent de la tête, hein. C'est...
Et il est, mais je dis, mais voilà, je le regardais, mais j'ai l'impression, je me dis, c'est Gabin qui se fout en colère, quoi. C'était magique de le voir dans cette scène. En plus, il l'a donné parce qu'on l'a refaite quand même plusieurs fois. Et à chaque fois, il était mais à fond les ballons. Et on se dit, mais putain, c'est vraiment des acteurs qui sont magiques, quoi. C'est des acteurs qu'on aime.
Alors Mathieu, moi je me souviens sur scène au Festival de la Fiction, tu as dit bon ben voilà, moi je veux être comédien, s'il y en a qui m'écoutent, j'ai fait Le Furet et apparemment il y en a qui t'ont entendu, puisque maintenant ben, Le Furet se transforme en Dédé, mais c'est toujours pour nous faire rire et c'est ce qu'on aime chez toi Mathieu.
Ouais, en fait, j'ai rencontré Philippe il y a 10 ans et il fait partie de ces gens. Il y en a peu dans le taf qui se souviennent, mais pas se souviennent, qui se souviennent dans le bon sens du terme. Tu as des mecs qui oublient pas et Philippe qui est là et il te le dira. Il m'avait vu il y a 10 ans dans un petit comédie club devant 20 personnes. Et 10 ans après, il m'appelle pour me dire, tiens, j'ai pensé à toi pour un rôle. Donc voilà, c'est juste ça. Et ça, c'est j'ai eu la chance dans mon taf, je sais pas si c'est une grande carrière ou si c'est une carrière ou machin, mais de rencontrer des gens qui croient plus en moi que moi je crois en moi. Et Philippe, il fait partie de ces gens-là. Ce rôle, il a été façonné par Philippe, parce que on l'écrivait quasi une heure avant de jouer souvent, tu vois. Et il ne marche que par la présence d'Olivier. Parce que c'est pas un rôle comique, c'est un duo comique. Et le fait que je sois juste derrière lui, et que, voilà, c'est ça qui fonctionne bien.
T'as quelques petits tête-à-tête avec des bonnes baraques quand même en face de toi.
Ça, c'est le plaisir de jouer. Ça, je vais même pas chercher à composer le rôle, hein. C'est moi, hein. L'espèce de lâche qui va chercher la merde à des gros balèzes. Et juste au moment où ils veulent te taper, t'entends Philippe qui fait couper. Tu fais, oh, allez, belle la vie. Mais ça, c'était le plaisir de. Et puis, il y a aussi un plaisir, c'est de faire marrer Philippe. Parce qu'il y a aussi un truc qui rentre en jeu, c'est que tu te dis, ok, on est sur la même longueur d'onde. Donc, si j'arrive à le faire marrer, c'est que c'est bon. Et donc, quand je voyais qu'il se marrait, je me suis dit, allez, bam. Ça, c'était un plaisir.
Il va faire marrer Olivier, du coup, aussi un peu.
Mais c'est pour ça que je suis derrière lui, en fait. Parce que quand on me mettait devant, il se marrait. Et mine de rien, la journée, elle est calibrée. Et tu peux pas. Et comme Olivier, c'est un rieur.
C'est pas le dernier déconneur, ça c'est clair, je confirme.
Le fait de me mettre derrière, il me voyait pas et je pouvais faire ce que je voulais sans que ça empiète sur le temps.
Même derrière, il avait du mal, Olivier. Ouais. Parce qu'il avait le son quand même.
Vous allez voir qu'il porte une très belle casquette et vous verrez, est-ce qu'il l'enlève avant la fin du film? Et une belle moustache. D'ailleurs, c'est un peu son surnom, Dédé la moustache. Et vous verrez s'il l'enlève cette casquette avant la fin du film ou pas. C'est ce qu'on découvrira. Ça va être le suspense, c'est un peu et l'enjeu de Paul Honneur qu'on va voir mercredi au cinéma. On va. Qu'est-ce qui est devenu la casquette exactement?
Là où il est enlevé. Qu'est-ce qui est devenu de la casquette de Dédé?
Alors puis il y a quand même une visite surprise d'un grand animateur. On va dire ça comme ça. On va pas dire pour pas déflorer la surprise pour que les spectateurs viennent voir. Mais c'était quand même surprenant de le voir. Et puis la Corée, c'est partie à part entière. C'est un personnage à part entière du film finalement. Amema qu'ils ont dû halluciner de voir toute cette équipe arriver.
Ah ben, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 80 avec 18 camions, donc ça fait du bruit un peu, ça fait du bruit et ça laisse pas indifférent. Mais en revanche, on leur doit beaucoup parce que c'est eux qui nous ont quand même aidés, les structures, enfin humainement. Le soir, il y avait des fêtes, tout ça. C'était vraiment, on a vécu un très très beau tournage. Non pas que les autres soient moins beaux ou moins bons, mais en tous les cas, nous, on s'est vraiment éclaté, quoi. Après, sur la petite surprise, c'était non. Enfin, voilà, je veux pas dire qui c'est parce que à chaque fois qu'il y a cette apparition là, partout où on va, de Bordeaux à Nice, de chaque fois qu'il apparaît, toute la salle fait oh comme ça. Et là, j'hallucine totalement.
On peut vous dire que c'est pas une petite surprise, c'est une énorme surprise. Voilà, on peut juste vous dire
surprise.
Ça.
Une belle surprise.
Allez voir mercredi Pour l'honneur au cinéma. On te doit Le Fils à Joe, Papy Sitter. On te doit J'adore ce que vous faites l'année dernière avec Gérard Lanvin, Artus, qui était à mourir de rire. Encore un très beau casting réuni autour de Solène Hébert, Mathieu Madénian, Olivia Bonamy, Olivier Marchal, Philippe Duquesne, Camille Aguilar et plein d'autres évidemment qu'on retrouvera dans ce film mercredi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On parlera du grand retour de Tandem pour son ultime saison. Stéphane Blancafort sera notre invité exceptionnel. Rufus également sera avec nous. On parlera du grand retour de HPI pour une 3e saison inédite sur TF1. Et puis, on aura également le plaisir d'évoquer, bien sûr, l'arrivée de Bardot sur France 2, lundi 8 mai prochain. Alors, soyez là.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet, onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chut, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.